Père Philippe, métaphysique à Fribourg, le 4 janvier 1983, troisième cours.
Nous allons continuer cette petite analyse au point de vue topique historique. Ce serait intéressant de faire l'histoire de la philosophie par ce sommet, c'est-à-dire par cette recherche de ce qui finalise l'être. Alors, je vous ai dit, Aristote commence le livre Theta, parce que c'est dans le livre Theta. Vous voyez, les catégories ne nous disent rien sur l'acte. C'est très significatif, ça. Les catégories ne peuvent rien nous dire sur l'acte. Les catégories nous enseignent sur l'ousia, mais pas sur l'acte. Alors, on pourrait dire... Avant la métaphysique, il y a quand même un lieu où on trouve l'acte. C'est dans la physique, la fameuse, le livre 3 de la physique, où Aristote parle de ce que c'est que le mouvement. L'acte de ce qui est en puissance en tant qu'il est en puissance. Et donc, il dit bien là, l'acte.
Dans le point de vue, dans la physique, c'est une très grosse question de savoir... Qu'est-ce que ça représente, l'acte tel qu'il est pris en physique? Quand vous regardez dans le De Anima, dans le Peripsuches, vous voyez également, Aristote parle de l'opération vitale comme entelecheia, comme acte. L'opération vitale est un acte. Et il dit là aussi deux manières d'être en acte. La manière d'être en acte comme le savant qui peut contempler, et le savant qui contemple. Alors, vous trouvez donc, déjà en philosophie de la nature et en philosophie du vivant, vous trouvez ces notions de l'acte à propos du mouvement, à propos de l'opération vitale. Mais c'est évidemment dans le livre, dans la métaphysique Theta, qui est le lieu. Donc je vous invite tous à lire dans la métaphysique le livre Theta. Si vous l'avez déjà lu, relisez-le. Et si vous ne l'avez pas encore lu, lisez-le, parce que c'est quand même quelque chose de capital. Il ne faut pas faire des études philosophiques sans avoir lu le livre Theta. Non, c'est quand même très important. Alors, les 5 premiers chapitres, Aristote traite de la dynamisme. Et j'ai essayé de vous expliquer pourquoi tout à l'heure, avant le repas, la raison reste la même, c'est-à-dire que, de fait, Aristote dit cela parce que Platon considère que Dunamis, c'est le sommet du Thoon. Le Thoon a son sommet dans la Dunamis. Il faut bien comprendre ça, c'est pas si bête, hein, parce que psychologiquement, c'est très vrai. Psychologiquement, c'est toujours une partie de la vérité. Du point de vue psychologique, c'est la vérité du côté génétique. Du côté génétique, c'est très vrai que dunamis, c'est la capacité de dépassement de l'étang.
On a traduit ça en termes heideggeriens. Vous avez donc l'étang, le toon, et alors la dunamis, c'est ce qui permet de dépasser. La dunamis, c'est la capacité d'agir. La capacité de faire. Vous avez une capacité d'agir, une capacité de réaliser quelque chose. C'est la dunamis. Vous voyez, dans une philosophie à la manière nietzschéenne, quel est le sommet de l'être? C'est notre capacité de créativité. C'est évident que pour Nietzsche, c'est la dunamis qui est volonté de puissance, qui dépasse tout. L'être, pour lui, c'est très très mauvais, ça fait bien. C'est le mensonge. Alors c'est la dunamis qui est loin. Et au fond, on retrouve, ce serait très intéressant, comme histoire de la philosophie, quand vous faites l'histoire de la philosophie, de regarder ces deux grandes manières. Il y a une place. Alors, vous avez donc deux grandes manières de regarder l'histoire de la philosophie. L'aspect de la dunamis, qui domine tout, et puis l'aspect de l'être humain.
vous avez les deux veines. C'est intéressant à voir ça. Eh bien, quand la dunamis est première, c'est tout le courant néoplatonicien. Pour tout le courant néoplatonicien, la dunamis dépasse. Et pour tout le courant aristotélicien, c'est le fond d'art. C'est intéressant parce que vous touchez là deux sommets de la pensée philosophique. Oui, et c'est ça l'intérêt. C'est dès qu'on est dans la philosophie première, dès qu'on est dans la métaphysique, on touche le sommet. Alors vous avez déjà touché un des sommets par l'ousia et la qualité, et vous revenez ici avoir deux autres sommets très intéressants, le sommet de la dunamis et le sommet de l'être en acte. Alors, les sommets de l'être en dunamis, je vous dis, c'est tout le courant néoplatonicien. Et c'est toujours plus proche de la psychologie. C'est l'aspect vital. Hein. Du côté, l'aspect vital qui est en nous, c'est la capacité d'agir. C'est la capacité de faire. C'est plus immédiatement psychologique, ça, vous comprenez ça tout de suite. Vous voyez ? Si tu voyais la capacité que j'avais, et si j'avais les moyens de réaliser tout ce que je suis capable de faire, on voit très bien, ça, c'est les prophètes, c'est un peu comme ça. Ils annoncent des choses, et ce n'est pas encore réalisé, ce n'est pas en acte. On est dans l'ordre des possibles. C'est vrai, la capacité, c'est l'ordre des possibles. Et les possibles, c'est toujours un peu prophétique. On ne sait pas encore comment ça va se réaliser. Et alors, au contraire, l'être en acte. Alors, les cinq premiers chapitres d'Aristote, du Theta 1 à 5, montrent que la dunamis existe et que la dunamis est quelque chose de très important, mais que la dunamis ne peut pas être le sommet de l'être. Pourquoi ? Alors, la dunamis ne peut pas être le sommet de l'être, parce que la dunamis est ordonnée vers quelque chose qui n'est pas elle. Donc elle est relative à un autre. Si elle est relative, elle n'est pas première. C'est la grande raison pour Aristote. Pourquoi la dunamis ne peut pas être le sommet de l'être ? Parce que de fait, elle implique un ordre. Capacité d'agir, c'est un ordre. Or, l'ordre n'est jamais premier dans l'ordre de l'être. L'ordre peut être premier dans l'ordre de l'intelligence, mais pas dans l'ordre de l'être. Les intellectuels regardent l'ordre avant tout. Vous savez bien, c'est l'ordre qui domine. Alors que non, c'est l'ordre ordonné vers, capacité d'agir, capacité de faire, c'est très important, c'est un ordre, c'est une dynamis. Mais ce n'est pas plus. L'être en acte, c'est différent. L'être en acte n'est pas ordonné autre chose. Alors Aristote va essayer maintenant d'étudier qu'est-ce que c'est que l'être en acte. C'est ça qui est important. À partir, là c'est dans le fameux chapitre 6, Aristote va nous donner une induction synthétique et analogique. Ce sont les expressions qu'Aristote nous donne. C'est le seul lieu où il nous dit ça. Il va nous donner une induction synthétique analogique. Et je crois profondément que c'est l'induction la plus difficile à faire et c'est l'induction la plus importante. Si induction, ça prouve qu'Aristote considère que l'être en acte, c'est un principe. C'est ça qui m'intéresse au point de vue de l'exégèse d'Aristote. Parce que des quantités, Averroès, entre autres, Avicenne aussi, disent que être en acte et être en puissance, ce ne sont que des modalités d'être. Et c'est vrai, c'est très tentant de dire ça. J'allais presque dire saint Thomas, presque dit ça. Ce n'est pas très attentif à saint Thomas, saint Thomas allait nous dire ça. C'est beaucoup plus facile, hein. Être en acte et être en acte, mais en fond, ce n'est pas des principes. C'est tout simplement deux modalités. Et c'est vrai, quand vous regardez en vous-même, hein, vous allez voir tout à l'heure l'induction, vous avez dormi cette nuit, j'espère, et vous êtes réveillé. C'est la même personne qui est dans deux états différents. Dormir et être réveillé, ce sont deux états différents. Donc ce sont deux modalités différentes d'être. Vous êtes dans la capacité de faire quelque chose et vous le faites. Deux états différents, l'être en acte et l'être en puissance. Alors, l'être en acte et l'être puissant, est-ce que ce ne sont pas deux modalités? Et très facilement, parce que Aristote est toujours très discret, vous savez bien, c'est la grosse difficulté d'Aristote. Quand il saisit quelque chose d'important, que celui qui comprenne, comprenne. Que celui qui ne comprenne pas, tant pis. Bon, et il passe son chemin, ça y est. Alors, on sent très bien chez lui ça. Alors, où je dis nécessairement pour Aristote, l'être en acte et télos. Il le dit, le reste, hein. Il le dit. Il dit que l'être en acte est théos. Mais on aurait aimé qu'il insiste plus. Il le dit en passant. Non. L'être en acte est théos. Donc, l'être en acte est fin. Donc, si l'être en acte est fin, il est principe. La fin est un principe. Un principe ultime, c'est un principe. Alors, où je peux dire que pour Aristote, nécessairement, l'être en acte est vraiment un principe, c'est qu'Aristote nous dit que l'être en acte, il est saisi à travers une induction synthétique analogique. Alors, s'il dit que l'être en acte est saisi à travers une intuition synthétique analogique, vous comprenez, ça veut dire, dans le langage d'Aristote, que c'est un principe. Parce qu'on ne saisit un principe que grâce à une induction. Donc là, c'est dit, mais ça c'est explicite, hein. Aristote dit que le principe nécessite que par une induction. L'induction a comme fonction de saisir l'universel et le principe. On passe d'une quantité de cas particuliers pour le point de vue universel. Donc, le passage de ce chat à chat se fait par une induction. Le passage de ce cheval à cheval se fait par une induction. Oui, le passage de papa à homme, le gosse dit papa, papa pour tous les hommes. Hein. J'ai remarqué ça. Un gosse dit ça. Il dit maman, maman pour toutes les femmes. C'est merveilleux ça. Alors vous voyez très bien qu'un beau jour, il va passer de papa à homme. Grand passage, mais évidemment, il n'aura pas la conscience qu'il fait une induction. S'il avait la conscience qu'il faisait une induction, ce serait merveilleux. Mais au fond, il n'a pas la conscience qu'il fait une induction. Tout simplement, tout d'un coup, oui, papa, oh. C'est quand même quelque chose, le passage d'un cas particulier à l'universel. Tous les hommes. Et quand il s'agit alors d'une induction pour saisir un principe propre, quand ça se fait, de temps en temps j'en ai conscience quand je fais de la philosophie. La philosophie, on pourrait dire que la philosophie, c'est de nous rendre conscients de nos inductions. Ce n'est pas une si mauvaise définition. La philosophie, c'est de nous rendre conscients de nos inductions. Parce que la plupart du temps, nous faisons des inductions sans nous rendre compte. Et la philosophie est là pour nous rendre compte de ça. Alors on les fait mieux que ce qu'on fait. C'est comme celui qui conduit sans faire attention, n'est-ce pas, et celui qui fait attention, c'est quand même mieux. Bien, quand on est conscient qu'on fait une induction, c'est quand même mieux que de faire inconsciemment une induction. Mais c'est très vrai, dans la vie, nous avons... À quel moment avons-nous découvert un principe? Si nous en avons déjà découvert. À quel moment dans notre vie avons-nous découvert l'universel? Demandez ça à des psychanalystes. Ils se sont jamais posé la question. Moi, je l'ai posé à plusieurs. Et alors, ils disent, tiens, mais c'est ce que je veux dire. Et vous êtes psychanalyste et vous n'êtes même pas posé la question. C'est triste. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas que c'est le passage du sensible à l'intelligence. Mais c'est quand même capital, ça. On est un homme quand on passe du sensible à l'intelligence. Tant qu'on est dans le sensible, on est au même niveau que la vache, que le bidet, que le chevreuil, que n'importe quel animal. On est dans le sensible, c'est la vie animale. Tandis que quand on passe... Alors, un psychanalyste, je crois qu'il doit avoir le sens du passage de la vie animale à la vie de l'homme. Mais un psychanalyste le fait du côté affectif. Alors, il ne découvrira jamais. Alors que s'il faisait du côté de l'intelligence, il découvrirait le passage du sensible de l'animal à l'homme. Il découvrirait la verticale, la relation horizontale. n'est-ce pas ? Alors il faut essayer de lui apprendre ça, parce que c'est important, parce que c'est ça la seule manière qui nous permet de sortir de nous, c'est de passer de l'animal à l'homme. C'est la chose essentielle, hein. Si vous faites de la philosophie, c'est de passer de l'animal à l'homme. Quand vous arrivez ici, vous êtes comme des animaux, n'est-ce pas ? Vous suivez tout ce genre, et puis au bout d'un certain temps, vous levez la tête. Et il faudrait que la faculté de philosophie ait la tête par rapport à toutes les autres facultés, en fait, pour rester sans savoir. Ils font des inductions. Le droit fait constamment des inductions, sans le savoir. Sans le savoir, ils ne savent pas. Ils ne savent pas, c'est très curieux. C'est très très curieux. La philosophie nous rend conscience d'une induction. Aristote est très conscient ici qu'il y a une induction. Donc, il y a la saisie d'un principe. Donc, être en acte et être en puissance, ce n'est pas simplement deux modalités. C'est vraiment la saisie à l'intérieur de la réalité d'un principe. Ça, c'est une bonne exégèse d'Aristote. Hein, c'est une bonne exégèse, puisqu'Aristote nous dit qu'il y a une induction synthétique et analogique. Alors, cette induction synthétique et analogique, Aristote veut essayer de saisir qu'est-ce que c'est que l'être au sens le plus parfait qui soit. Alors, il constate, il y a deux états de conscience, constatation, l'expérience. On parle de l'expérience, l'induction. Être endormi ou être éveillé et être endormi. Être un mec qui dort. Vous faites cette expérience tous les jours. Résumé. Et quelquefois, plusieurs fois par jour. Ça dépend des cours. Alors, déjà, plusieurs fois, parce que quelquefois, on se réendort, comme on dit, et on se réveille, n'est-ce pas ? Alors, plusieurs fois par jour. Le passage, être éveillé, être endormi. Et toute la spiritualité, ça consiste à savoir si on dort pour être éveillé, ou si on est éveillé pour dormir. Il y a deux grandes spiritualités différentes. Oui, c'est tout à fait différent, parce qu'il y a des gens qui sont éveillés pour dormir. Et il y a des gens qui dorment pour être éveillés. Choisissez. Il faut choisir. Un jour, la philosophie est faite pour qu'on choisisse, alors que la plupart des gens ne choisissent pas. C'est très curieux. Ne choisissent pas. Ils sont très heureux de pouvoir dormir à plein leur sou, tout ce qu'on peut. Ils sont donc éveillés pour dormir. Vous voyez, la plus grande des béatitudes, c'est de dormir. Parce qu'à ce moment-là, on ne pense à rien. Donc, c'est la plus grande des béatitudes. Donc, alors, vous voyez, être éveillé, c'est exactement ce que dit Aristote, être éveillé ou être endormi. C'est toute la différence entre Freud et saint Thomas. Pour Freud, La chose importante, c'est quand on dort. Parce qu'à ce moment-là, l'inconscient domine. Tandis que quand on est éveillé, c'est le conscient qui domine. Le conscient, c'est le devoir, et l'inconscient, c'est le plaisir. Alors, il est bien évident que le plaisir l'emporte sur le devoir, dans une attitude freudienne. Vous voyez ? Donc, vous voyez bien ? Vous êtes éveillé pour donner de la matière aux psychanalystes. Parce que quand vous dormez, vous avez des rêves. Vous donnez une matière extraordinaire. Bon, deux états. Un, deux. Qu'est-ce qu'il y a ? La vision. Je vois, capable de voir. Il y a les deux. Ça aussi, vous êtes obligé de constater. Quand je suis pleinement éveillé, j'ouvre les yeux. Quand ça commence, c'est le gosse qui grand-mère en poussière qui passe, hein, alors il commence à fermer les yeux, hein, très bien, ça. Alors il est capable de voir, mais il voit plus. Capable de voir et la vision. Contempler, être capable de contempler. La forme et la matière, le parfait et l'imparfait.
Voilà les cinq expériences que donne Aristote. Vous pouvez réfléchir là-dessus, c'est très beau comme exemple. Il donne ça. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a une induction analogique synthétique. On prend des exemples dans notre vie humaine. Tout ça, c'est dans notre vie humaine. Dans notre vie humaine, prenons ces exemples, nous constatons en effet être éveillé, être endormi, capable de voir la vision, capable de contempler la contemplation. Il y a un exemple, je crois que c'est le point de vue de la fabrication de la fabrication. Enfin, c'est parfait ou imparfait. Ça n'a pas d'importance. Mettons ça. Hein. Alors, celui qui construit, il y a l'architecte qui construit en acte, et puis qui est capable de construire. On pourra en ajouter, je dirais ça, peu importe. Mais il en prend cinq. Alors, vous avez cinq états que vous pouvez tous constater. Nous avons tous fait ces expériences-là. Nous voyons que dans toutes ces expériences, il y a quelque chose de commun. Ah, voilà l'induction analogique. Il y a quelque chose de commun. Qu'est-ce que c'est que ce quelque chose de commun? C'est que ces deux états regardent la même personne. C'est le même je. C'est le même moi. C'est moi qui m'éveille tous les matins. Et c'est moi qui m'endors. Hein? Vous n'avez jamais douté de ça. Quand vous vous éveillez le matin, vous ne vous demandez pas si c'est la même personne qui s'est endormie le soir. Ça deviendrait tragique. C'est vrai, une dualité dans la personne, mais extrêmement dangereuse. Quand vous êtes capable de voir, vous voyez, c'est la même personne. Quand vous êtes capable de construire, vous construisez, c'est la même personne. La matière et la forme, mettez le corps et l'âme. Et puis, parfait et imparfait. C'est le même moi. C'est le même moi, c'est le même jeu, c'est le même moi. C'est donc au niveau de la substance, c'est la même substance qui connaît deux états différents. Être éveillé et éveillé, être capable de voir et la vision, et ainsi de suite. Donc, on voit qu'il y a quelque chose d'analogue, tous ces états. Pourquoi? Il y a un état qui est de fait imparfait. Ce que j'ai mis en dernier. Il y a un état parfait. Tous ces états sont imparfaits et parfaits. Or, l'imparfait est ordonné au parfait. Et non pas le parfait vers l'imparfait. Donc je vois qu'à travers tous ces états, il y a quelque chose d'analogue. La dualité et l'unité. Vous voyez l'intuition de l'être. L'intuition de l'être de Maritain que vous pouvez retrouver ici. L'être, il est tout ça. Et à l'intérieur de l'être, il y a l'être parfait et l'être imparfait. Et l'être imparfait ordonne à l'être parfait. Vous voyez bien ça. Donc, diversité des états, quelque chose de semblable, un ordre commun, quelque chose de commun à travers tous ces états, ce qui me permet, si je réfléchis, et surtout si je suis sous l'interrogation, qu'est-ce que c'est que l'être en acte? Si j'interroge, qu'est-ce que c'est que l'être parfait? J'interroge, hein? Tous ces exemples, c'est pour pouvoir découvrir ce que c'est que l'être parfait. Donc il y a l'interrogation, qu'est-ce que c'est que l'être parfait? L'être parfait, c'est celui qui achève la tension qui est d'être imparfait vers lui. Et je le retrouve dans ces cinq dimensions différentes. Et le retrouvant dans ces cinq dimensions différentes, je vois que ces dimensions, elles sont à des niveaux très très différents, et c'est ça qui m'intéresse. Il y a le niveau du vivant de vie végétative. Il y a le niveau du vivant de vie animale. Il y a le niveau du vivant du facere, donc l'intelligence. Il y a le niveau du vivant de l'intelligence, la contemplation. Il y a le niveau de la nature. Et il y a le niveau, c'est ça, les différents aspects. Vous voyez donc que tous ces états divers ont quelque chose de commun, et ce quelque chose de commun est au-delà de l'intelligence, au-delà de la vie sensible, au-delà de la vie végétative, au-delà de la nature, donc le quelque chose de commun ne peut être qu'au niveau de l'être. Cette division est tellement radicale qu'elle chevauche sur les différents degrés de vie, qu'elle chevauche sur le point de vue de la philosophie de la nature, et donc qu'est-ce qu'être commun ? Ce ne peut être que l'être. Et donc c'est une division qui affecte l'être. Je peux donc, à partir de toute cette diversité, sous l'interrogation « qu'est-ce que c'est que l'être en acte ?», découvrir que l'être en acte, en effet, c'est celui qui donne sa signification à l'être imparfait, à l'être en puissance. C'est celui qui donne sa signification à l'être en puissance. Donc, à travers toute cette diversité, je découvre la primauté de l'être en acte. Je crois que ça, nous pouvons tous faire ça, hein, si vous y réfléchissons un peu. C'est très intéressant, du reste, comme induction. Induction analogique, induction synthétique. Il faut prendre les cinq modalités différentes et les comprendre dans ce qu'elles ont de commun et de voir qu'à partir de là, le quelque chose de commun est très radical, ça ne peut être que l'être, puisqu'il est au-delà de la distinction du vivant et du mu. Et à l'intérieur du vivant, il est au-delà des degrés, des différents degrés de vie. Et donc, s'il est au-delà de la vie et au-delà de la nature, ça ne peut être qu'au niveau de l'être. Il n'y a que l'être qui fait la synthèse des deux. Donc, cette distinction me révèle quelque chose de très profond dans l'ordre de l'être. L'être se divise en être en puissance et en être en acte. L'être se divise en être en puissance et en être en acte. Et l'être en puissance est tout entier ordonné à l'être en acte. Oui, premier moment de l'induction. Je découvre donc que l'être en acte est fin de l'être en puissance. Ça, il faut essayer de le faire, il faut le penser, hein, il faut essayer de le penser dans toute sa force. C'est-à-dire, en interrogeant, qu'est-ce que ce l'être en puissance ? Je regarde les différents exemples, je vois qu'il y a quelque chose de commun dans tous ces différents exemples, et je vois que tous ces exemples, dans ce qu'ils ont de commun, m'obligent d'aller jusqu'à l'être, parce que c'est l'être qui est en commun en eux, et donc m'obligent de découvrir dans l'être cette division de l'être en puissance et de l'être en acte. Bon, une fois que j'ai fait ça, je peux maintenant réfléchir sur ce que représente exactement l'antériorité de l'être en acte sur l'être en puissance. C'est ce que fait Aristote à la suite. À la suite du chapitre 6, il y a le chapitre 7, où Aristote étudie l'antériorité de l'être en acte sur l'être en puissance. Et il montre que l'être en acte est antérieur à l'être en puissance selon la substance, selon l'intelligibilité, selon la puissance, selon la substance et la nature, selon l'intelligibilité, selon la connaissance. Les trois antériorités. Mais il montre que l'être en puissance est antérieur à l'être en acte dans l'ordre du devenir, dans l'ordre génétique. Dans l'ordre génétique, l'être en puissance est antérieur à l'être en puissance. Avant de voir, j'étais capable de voir. Avant de contempler, j'étais capable de contempler. Avant d'être éveillé, j'étais capable d'être éveillé, c'est-à-dire je dormais. Parce que la définition de celui qui dort, c'est celui qui est capable d'être éveillé. C'est merveilleux ça. Quand vous dormez, vous êtes capable d'être éveillé, de sortir de votre sommeil. Donc celui qui dort, c'est celui qui est capable d'être éveillé. Donc vous voyez que dans l'ordre du devenir, l'être en puissance est antérieur à l'être en acte. Et on précise, dans l'être du devenir, l'être en puissance est antérieur à l'être en acte quand il s'agit d'un individu d'une même espèce. Parce que quand il s'agit d'espèces différentes, il faut reconnaître que même là, dans l'ordre du devenir, l'acte est antérieur à la puissance. Et c'est vrai quand il s'agit, alors c'est ça, c'est toute la question de l'évolution. Vous voyez, on remet tout ça. Hein. Tout ça, c'est au cœur. Hein. Parce que, est-ce qu'un être en devenir peut progresser par lui-même? Non, s'il n'y a pas un être en acte avant. Ça, c'est une évidence. Hein. Vous n'allez pas mettre un seau d'eau devant vous et dire il faut que cette eau devienne chaude. S'il n'y a pas un agent extérieur qui chauffe l'eau, elle ne deviendra jamais chaude. C'est évident. Elle est capable de devenir, mais pour être pour le devenir, il faut un agent qui agisse. Alors vous voyez l'évolution. Quand vous voyez un animal est capable de devenir un autre animal supérieur, mais comment? Comment? Vous ne l'expliquez pas. Alors la métaphysique montre qu'attention, il y a nécessairement un être en acte. Alors si vous posez Dieu, évidemment, l'évolution est possible. Dieu peut très bien construire l'évolution. Ce n'est pas au contraire à sa sagesse. Mais si vous posez l'évolution pour s'opposer à Dieu et expliquer tout, vous tombez dans une contradiction. Oui. Parce que quand dans l'ordre du devenir, la puissance est antérieure à l'acte pour l'individu d'une même espèce, mais pas pour l'espèce elle-même. Bon, alors vous voyez bien, et ça c'est très important de bien saisir, que quand il s'agit d'antériorité de l'acte sur la puissance, l'antériorité de l'acte sur la puissance n'est pas absolue. L'antériorité de la substance, de l'ousia sur la qualité, était une antériorité absolue. Tandis que l'antériorité de l'acte sur la puissance n'est pas une antériorité absolue. Pourquoi? Qu'est-ce qui pourrait répondre à ça? Ça, c'est subtil. Hein? Qu'est-ce qui peut répondre à ça? Je répète, hein? Parce que je voudrais que vous découvriez vous-même, parce que si vous le découvrez, si je vous le dis, vous continuerez de dormir, hein? Alors ce serait bien, ça ne s'enracinera pas. Tandis que si vous le dites vous-même, vous vous éveillez en me disant, mais à ce moment, ça s'inscrit. Bon? Alors je reprends. Comment se fait-il que lorsque je découvre l'ousia, l'ousia est totalement antérieure à la qualité? Antériorité selon la nature. Antériorité selon l'intelligibilité, antériorité selon la substance, selon la connaissance, antériorité selon le devenir. Comment se fait-il, quand il s'agit de l'antériorité de l'acte sur la puissance, cette antériorité n'est pas absolue. Il y a un domaine où la puissance rattrape l'acte, si j'ose dire. C'est le domaine du devenir. Et le devenir de l'individu à travers son espèce. Pourquoi? C'est une très belle question. Très belle question d'examen. Quand on veut sécher un candidat, mais qu'elle pose cette question-là. Et puis d'attendre le quart d'heure qu'il passe. Alors ça, c'est l'antériorité selon le temps. De là, on commence à comprendre que quand on est en puissance, c'est difficile de devenir en acte, vous voyez. Sécher un examen, c'est une expérience de la puissance. Non, de la puissance. Vous voyez, parce que et là, on voit que là, une intériorité selon le temps. Non, s'il n'y a pas quelque chose qui vient nous réveiller, on est complètement sec. Alors, réfléchissez là-dessus. J'aimerais beaucoup que vous découvriez vous-même. Je le prends d'une autre manière. Vous allez découvrir. Je le prends d'une autre manière. Je dis, le premier axe métaphysique, hein, selon Aristote, c'est découvrir l'ousia qui se divise par rapport à la qualité. priorité de l'ousia sur la qualité. Donc, ce qui est du point de vue de l'être, se divise, c'est bien une division dans l'être, se divise en ousia et qualité. L'être se divise de cette manière. Deuxième axe, ce qui est se divise d'une autre manière encore, être en acte, être en puissance. Et je dis bien, ce sont les deux grandes divisions de l'être. Il n'y en a pas 36, l'être se divise de deux manières. Priorité d'être en acte, priorité d'être en puissance. Quand il s'agit de cette première priorité, la priorité de l'ousia sur la qualité est absolue. Quand il s'agit de cette priorité de l'être en acte sur la puissance, cette priorité n'est pas absolue. Puisque dans l'ordre du devenir, il y a inversion. L'être en puissance, l'être en acte. Autrement, il n'y aurait pas de devenir. Le propre du devenir, c'est de devenir intelligent. Donc, on devient intelligent parce qu'on ne l'était pas au point de départ. C'est évident, hein? Si vous l'étiez au point de départ, vous n'auriez pas besoin de devenir intelligent. Je suis intelligent pour l'éternité. Très vrai. Si vous êtes intelligent, vous êtes intelligent pour l'éternité. Tandis que si vous devenez intelligent, c'est pas pour l'éternité, c'est dans le temps. Vous devenez intelligent. C'est le devenir qui se fait. Et vous commencez par être en puissance pour devenir intelligent, en acte. Alors, pourquoi, je repose la question, vous voyez, quand on a ce petit tableau très simple, c'est intéressant à se réfléchir là-dessus. Aristote ne le dit pas, parce qu'Aristote croit qu'on est très intelligent. Aristote ne le dit pas, il ne le dit pas. Il ne dit pas pourquoi cette division de l'être, ousia qualité, fait que l'ousia est toujours première et la qualité toujours seconde. Tandis que l'être en acte et l'être en puissance, la division fait qu'il y a une ratée, le devenir. Et le devenir de l'individu. Pas le devenir de l'espèce. Le devenir de l'individu. Alors, qu'est-ce qui pourrait me dire pourquoi la seconde division de l'être, ce qui est vu du point de vue de l'être, quand il se divise en être, en acte et en être en puissance, pourquoi cette seconde division ne va pas jusqu'au devenir. Vous voyez, comme c'est joli. C'est analogue, vous voyez. Je vous mets sur la piste. Hein, si vous voulez. C'est analogue à ce fait. Je vous donne ça parce que c'est des réflexions qui sont capitales, ces choses-là. Si on ne voit pas ça, on ne comprend rien du tout en métaphysique. Hein. Alors, il faut comprendre. Ce qui est nu, le devenir, se divise en nature, matière. Cette division de ce qui est eu, du devenir, est une division propre au devenir. Dès que je suis au niveau de l'être, cette division nature-forme et nature-matière est dépassée. Nous l'avons vu ce matin. L'ousia est première d'une manière telle qu'elle ne s'oppose pas à la matière. Ce n'est pas la division de ousia et de matière, c'est de ousia et qualité. L'ousia ne s'oppose jamais à la matière. l'ousien s'oppose à l'égalité. C'est la nature-forme qui s'oppose à la nature. J'ai dit ça, c'est parce que des quantités thomistes, Gilson n'a pas compris ça. Et aujourd'hui, combien de thomistes sont-ils gilsoniens? Je crois que tous les thomistes que je connais sont gilsoniens. Et quand je leur pose la petite question, ils disent, mais vous avez vu dans Gilson? Oh, ils disent, oh, c'est pas important. C'est quand même capital, ça, pour que Gilson n'a pas saisi exactement la différence entre le devenir et l'être. C'est au moment de la division qu'on saisit si l'intelligence est pénétrante. C'est une intelligence qui divise. Ça, c'est le scalpel de l'intelligence. C'est le scalpel du philosophe. La division qui divise. Alors, la division de ce qui est mu et la division de ce qui est n'est pas du tout la même. Et la division de ce qui est au-delà de la division de ce devenir. Hein? Donc, je ne retrouve pas au niveau de l'ousia et de la qualité en sous-division nature-forme et nature-matière. C'est complètement dépassé. Vous avez donc là trois divisions d'un type tout à fait différent. Je pourrais en ajouter d'autres. Hein. C'est intéressant toujours d'en ajouter d'autres. Quand je prends la division, ce qui se meut. Ce qui se meut se divise comment? Se divise en âme et corps. Est-ce que la division âme et corps est la même que celle de nature-forme et nature-matière? Hein? Analogiquement, vous direz, mais analogiquement, on s'en sauve toujours. Analogiquement, quand vous ne savez plus, dites analogiquement. Alors, vous ne direz jamais une grosse bêtise. Vous pouvez toujours vous retrouver. Alors, analogiquement, c'est vrai, ça se ressemble. Il y a quelque chose, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. La preuve, c'est que l'âme pourra exister indépendamment du corps, alors que la nature-forme ne peut jamais exister en dehors de la nature-matière. Ah, il y a quelque chose d'autre. Nous savons donc que l'âme a quelque chose que la nature-forme n'a pas. Il y a une analogie entre les deux, il y a quelque chose qu'il n'a pas. Et ce quelque chose, c'est quoi? Ah, c'est parce que, justement, l'âme est substance. Tiens. Ah, parce que l'âme est substance. Si l'âme est substance, ah bon, l'âme est au-delà de la distinction du corps, parce qu'elle est substance. Elle peut donc subsister par elle-même. Parce qu'elle est substance. La substance ne s'oppose pas à la matière, ça s'oppose à la qualité. Vous voyez cette chose très importante, on récite sa leçon habituellement, puis on ne fait pas les titres, les petits rassemblés, les similitudes. Alors je pose la question, je reviens à la question, parce que c'est quand même important. Je reviens à mes questions. Pourquoi cette troisième division, en implique une sous-division qui est inverse de la première. L'ordre du devenir n'est pas du tout l'ordre de l'être. L'ordre du devenir, vous l'avez ici et vous l'avez là. C'est quand même curieux. Là, vous commencez à voir toutes les possibilités. Parce que dans l'ordre du devenir, c'est l'ordre de ce qui est vu, vous avez la division, la nature-forme. Et puis alors vous avez le devenir. Vous commencez à comprendre, j'espère. Dans l'ordre du devenir, hein, dans l'ordre du devenir, la matière est présente. Et la matière, puisqu'elle est présente, elle est en puissance. Elle est antérieure à l'acte. Que ce qui est mu doit être mu par un autre. Donc, en lui-même, la matière est antérieure. Vous voyez? Tandis que si je prends l'ordre de l'être, je suis du côté de l'ousia. L'ousia est antérieure à la qualité. L'ousia est acte antérieur à la qualité. la qualité, je ne dis pas que c'est d'être en puissance, hein, parce que c'est d'être déterminé. Mais je vois très bien comment, ce n'est pas du tout contradictoire, parce qu'il y a le cheminement, et c'est ça qui est très très curieux, il y a le cheminement entre l'être en acte, vous voyez, il y a trois aspects, il y a l'être, et puis le devenir. Et vous voyez qu'il y a des distinctions analogues entre l'être et le devenir, qui sont différentes, entre le point de vue de l'être et du devenir, du côté de l'être en acte et d'être en puissance. Et là, c'est inversé. Alors, il faut réfléchir là-dessus. Il faut réfléchir là-dessus, c'est très intéressant. C'est très intéressant de voir ça. Alors, je crois qu'on peut dire ceci, hein, puisque personne ne répond. J'aurais aimé que vous trouviez c'est faisable de trouver ça. C'est faisable de trouver une chose comme ça. C'est de voir que la division être en acte et être en puissance est une division qui va plus loin dans l'ordre de l'être que la division ousia et qualité. Ça, je crois qu'on peut tout de suite le dire. Que la division de l'être en acte et l'être en puissance est une division qui va plus loin. Elle est plus ultime, c'est normal. Parce que l'ousia est toujours quelque chose de premier dans l'ordre de la détermination, tandis que l'être en acte est quelque chose d'ultime. Donc la division de l'être en acte, de l'être en acte et d'être en puissance, est une division qui va plus loin au point de vue de la compréhension dans l'ordre de l'être. Que la division ousia qualité.